L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention. L'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Xavier lui montre sa chambre. Jean a des difficultés à croire à tout ça. Et il pense qu'il est encore en train de dormir. Xavier lui montre sa chambre, qui est une chambre misérable, triste et sale. Et pour montrer à Jean qu'il ne rêve pas, il lui fait toucher les choses. Jean est ému. Il ne sait plus où il en est. Il trouve tout ça extraordinaire. Xavier lui dit, c'est là que j'habite. Jean va regarder à la fenêtre et voit de vieux immeubles épaules. C'est triste. Xavier s'habille. Il a retrouvé ses vêtements sur la chaise. Jean n'a pas de vêtements, Xavier lui donne des siens. Tiens, prends ça. Jean s'habille. Xavier prépare le café. Ils se mettent à table. Xavier, bois, Jean, tout est cité, goûte le café et dit, même ce que l'on boit et mange, c'est vrai. Xavier lui dit, tout ce qui est dans ce monde est vrai. Il fait encore nuit, mais Xavier décide de faire visiter son quartier à Jean. La place où se trouve l'immeuble où habite Xavier paraît à Jean lugubre. Xavier lui montre son quartier et les bords de Saône. Il n'y a personne dans les rues et tout est calme. Jean trouve ce quartier triste, délabré et misérable. Mais il trouve extraordinaire de se trouver ici, dans ce lieu. Dans ce monde, il ne peut pas s'empêcher de toucher pour se sentir dans ce monde et sentir les choses. Il touche la façade des immeubles, les réverbères, etc. Tout semble vrai et même l'air qu'il respire. Il dit à Xavier, ça me paraît impensable ce que tu me disais. Ou je pensais que ce monde-là n'était pas tout à fait le même que celui où je vivais et qu'il devait être un peu comme un décor de théâtre. Et maintenant je suis là, je n'en crois pas mes sens. Comment se fait-il? Et nous avons atterri ici comme ça. Le jour se lève et les gens sortent de chez eux. Les boutiques s'ouvrent. Jean voit que les personnes ressemblent aux personnes vivant dans son monde, physiquement, mais elles sont plus misérables, qu'elles se comportent d'une façon tout à fait normale. Ce ne sont pas des fantômes ou autres. Xavier ramène à sa chambre Jean. Une fois qu'ils sont rentrés, Xavier lui dit, maintenant il faut que j'aille travailler. Je travaille chez un poissonnier comme manœuvre, pour gagner un peu d'argent, pour me nourrir. Jean lui dit, c'est mieux dans l'autre monde pour toi, car tu vis sans rien faire comme une personne qui a les moyens. Xavier lui dit, oui, mais je ne suis pas libre, et ici c'est chez moi. Jean lui dit, je croyais que comme ici tu n'étais que de passage, tu n'avais pas besoin de travailler. Xavier lui dit, lorsque je suis dans un monde, je vis comme je dois vivre dans ce monde. Allez, il faut que j'y aille. Jean lui dit, au lieu que je reste enfermé ici à t'attendre, je vais aller avec toi. Et ils partent tous les deux. Poissonnier reçoit Xavier comme s'il l'avait écouté hier au soir. Je demande au poissonnier, est-ce que je peux vous aider? Le poissonnier lui répond, ma foi, si tu es avec Xavier, mais tu peux, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'arrivages. Arrêtez-vous. Xavier explique à Jean ce qu'il doit faire et lui montre les différents poissons. Cela amuse Jean de jouer aux manœuvres avec Xavier. Tout en travaillant, il demande à Xavier « Comment se fait-il que le poissonnier ne s'est rendu compte que tu étais absent durant plusieurs semaines et même des mois ?» Xavier lui dit « Dans ce monde, le temps s'arrête aussi lorsque je le quitte et il reprend à mon retour au même instant que je l'ai quitté. » Deux heures plus tard, Jean commence à être fatigué de porter des cajots de poissons qui sont remplis de glace. En plus, il trouve le travail très monotone. On dit à Xavier, la vie dans ce monde n'est pas marrante. Xavier lui dit, même dans l'autre monde, le pauvre doit travailler pour vivre. Ils finissent de travailler à 19h. Ils sont épuisés tous les deux et en plus, ils sentent les poissons. En plus d'avoir déchargé les cajots de poissons, ils ont aussi aidé à servir les clients. Cette partie du travail a beaucoup amusé Jean, car les gens sont un côté simple et gentil.
Ça sera tout ?
Après le travail, ils sont allés chercher à manger dans une épicerie de la rue. Puis, ils sont rentrés. Xavier prépare le repas et il mange tranquillement. Xavier demande « Qu'est-ce que tu penses de cette vie ?» Jean lui répond « Je suis tout étourdi et je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à entrer dans un autre monde. Si je n'étais pas fatigué et si je ne mangeais pas en sentant ce que je mange, je penserais que je serais en train de rêver. » Xavier lui dit, « Tu ne rêves pas et ce qui t'entoure, c'est bien la réalité. » Jean lui dit, « Ce qui me surprend le plus, c'est que je ressens tout ce qui m'entoure, absolument tout ce qui m'entoure. » Avant d'aller se coucher, il va encore une fois se promener dans la ville qui semble à Jean très délabrée et lugubre. Il y a beaucoup de clochards et les magasins pour la plupart sont fermés. La chaussée est pleine de saleté. Puis, il retourne se coucher. Xavier ne veut pas dormir nu et unipe avec Jean et lui dit, « Tu comprends? Je veux rester dans ce monde. » Jean lui dit, « Moi, j'aimerais retourner dans l'autre monde, car c'est le mien. Comment faut-il faire pour que je puisse retourner dans mon monde et que toi, tu restes ici ?» Xavier lui dit, « Il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas retourner dans l'autre monde sans moi. » Jean est triste et ne veut pas vivre ici. Là-bas, c'est sa vie. Il est heureux d'avoir vu ce monde, mais il ne se voit pas vivre dans ce monde qui n'est pas le sien. Et puis, là-bas, il a des objets, des projets, et ici, il n'a rien. Oui, il a toutes ces choses là-bas. Jean dit à Xavier, « Je veux bien vivre ici quelques jours et même quelques semaines, mais pas constamment. » Ici, ce n'est pas mon monde. Je suis heureux d'avoir fait cette expérience avec toi, mais je veux que ce ne soit qu'une expérience. » Xavier est triste que Jean ne veuille pas rester ici. Il a de l'amitié pour lui et ne veut pas lui faire de la peine, alors lui dit, « Nous resterons dans l'autre monde pour te faire plaisir. Nous retournerons dans l'autre monde, je veux dire, pour te faire plaisir. Je le ferai par amitié pour toi. Je ne veux pas te faire de la peine. Et puis ce serait égoïste de te forcer, de forcer mon ami à vivre ici. Pour retourner dans l'autre monde, il faudra faire la même chose que nous avons fait pour arriver dans celui-là. Mais il n'est pas possible de savoir quand la chose le décidera. Alors, le jour où tu en auras assez de vivre ici, nous nous unirons toutes les nuits jusqu'à ce que nous retournions dans l'autre monde. Mais moi, je pourrais retourner dans ce monde seul si tu ne veux plus y retourner, parce que moi, je veux y retourner seul. Jean lui dit, je te remercie. Et j'accepte de rester dans ce monde quelques semaines ou même quelques mois. Mais il faut que tu comprennes qu'ici ce n'est pas mon monde. Malgré tout, je suis heureux de faire cette expérience avec toi. Et cela me prouve que c'est la vérité que ce que tu me dis. J'aimerais savoir comment cette chose peut faire ça et pourquoi elle le fait avec toi. Xavier lui dit, je ne sais pas. C'est pour cela que je cherche à savoir qui est de Sainte-Croix et pourquoi on veut que je sois de Sainte-Croix. De Sainte-Croix doit faire partie de ce mystère. C'est peut-être ce pouvoir que les autres veulent lui prendre. Jean lui dit, je t'aiderai à résoudre ces mystères. Xavier ne veut pas rentrer de suite, ils ne s'unissent pas, ils couchent tous les deux habillés. Mais lui, Xavier, peut à tout moment, à tout instant, quitter ce monde sans son ami Jean et quand la chose le voudra. Il suffit qu'il dorme. Mais si Xavier quitte ce monde et que son ami Jean reste dans ce monde, que deviendra Jean ? Il sera seul dans ce monde et peut-être qu'il ne pourra jamais retourner dans le sien. Car la chose ne le connaît pas et pour elle, ce serait une personne de ce monde. Alors chaque fois que Xavier se couche, il a peur que la chose le ramène dans l'autre monde en laissant Jean ici. La nuit, il essaye de rester éveillé le plus longtemps possible. Il se sent coupable d'avoir amené son ami dans cette aventure qui risque de lui être fatale. Il n'ose pas lui dire ce qu'il risque. Quelquefois, il se dit que ce serait plus honnête de passer la nuit en s'unissant avec Jean. Comme cela, si la chose le ramène dans l'autre monde, Jean aussi serait ramené dans l'autre monde qui est le sien. Mais de retourner dans l'autre monde, cela lui donne le cafard. Il aimerait pouvoir toujours rester dans son monde. Peut-être que Jean s'habituera à cette vie. Il continue à travailler chez le poissonnier, à visiter la ville. Jean est toujours surpris et émerveillé de se trouver dans ce monde, malgré qu'il aimerait retourner dans le sien, mais cette expérience lui paraît extraordinaire. Il voit que la vie n'est pas facile, que Xavier travaille beaucoup pour gagner peu et juste ce qu'il faut pour manger. Pour ce qu'il mange, ce ne sont pas des produits de première qualité, que le travail qu'ils font est un travail très pénible. En gros, que la vie de Xavier dans son monde est plutôt une vie de survie. un après-midi, en sortant de leur pièce, ils tombent sur le voisin d'en face, François. François dit à Xavier, « Bonjour, vous allez bien ?» Xavier lui dit, « Ça peut aller, je travaille toujours chez mon poissonnier. » François lui dit, « Nous sommes dimanche, si vous voulez, je vous invite à boire un café. » François voit que Xavier a une personne avec lui. Alors il dit, « Je vous invite vous aussi. » Xavier lui dit, « C'est mon frère, Jean. Il vient passer quelques jours avec moi. » Jean lui dit, « J'habite Paris et je suis étudiant. » François sourit et lui dit, « Soyez bienvenue à Lyon. Allez, entrons. » François les fait asseoir à table et il prépare le café. Un quart d'heure plus tard, ils prennent le café. Merci. Tout en discutant. François parle des difficultés de la vie. Il leur dit, c'est de plus en plus difficile pour trouver du travail. Et la vie coûte de plus en plus cher. Moi, je viens de la campagne et je ferai peut-être mieux d'y retourner. Car là-bas, c'est plus simple pour se nourrir. Et à Paris, c'est aussi difficile pour y vivre. À Paris aussi, c'est difficile. En plus, les loyers sont affreusement chers. Avant de partir, François leur dit, « J'ai une petite voiture et nous pourrions le dimanche faire des promenades comme ça. Nous pourrons présenter les environs de Lyon aux Parisiens. » Xavier et Jean acceptent. Le dimanche après-midi, ils vont se promener dans les environs de Lyon, dans les monts de Lyonnais, au lac du Bourget, etc. Ils amènent un petit cache-croûte pour manger. Ils sont heureux tous les trois d'être ensemble. Xavier paye une partie de l'essence à François. Il ne voulait pas, mais il lui a dit que c'était tout à fait normal étant donné qu'ils sortaient tous les trois. Durant les promenades, François leur dit qu'il adore la nature. Alors il arrête la voiture et ils vont marcher un peu dans les bois. Une nuit, en se promenant dans les rues du quartier, Xavier dit à Jean qu'il aimerait lui présenter de Sainte-Croix. Jean lui dit, « J'en serais enchanté de connaître cette personne qui est peut-être le vrai de Sainte-Croix. » Xavier lui dit, « De Sainte-Croix n'apparaît que comme ça, sans prévenir, et disparaît dans la nuit. » Malheureusement, il le cherche durant plusieurs nuits, mais ne le trouve pas. Alors Xavier décide d'aller dans la maison de Sainte-Croix avec Jean. Ils réussissent à entrer dans la maison et ils voient que la maison est abandonnée. Il y a des détritus, de la poussière, des toiles d'araignée, des meubles en mauvais état, vitres brisées, etc. Jean lui dit « Tu as dû te tromper de maison. » Xavier lui dit « Lorsque je vais seul dans la maison, elle est toujours comme ça. Mais lorsqu'il y a deux Sainte-Croix, la maison semble habitée, tout est en ordre. » Jean lui dit « Cela prouve que de Sainte-Croix, lui aussi doit passer d'un monde à l'autre. » Xavier lui dit « Je lui ai posé la question, mais il m'a dit que non. » Jean lui dit « Ça ne veut rien dire. » Que peut-être de Sainte-Croix va d'un monde à l'autre sans qu'il ne s'en rende compte. Ce n'est pas la même chose qu'avec toi. Le voisin de Xavier, qui s'appelle François Durand, qui a 25 ans, il est grand, mince, cheveux châtains, physique normale. Au cours d'une promenade qu'ils font ensemble, il essaye de séduire Xavier. Ils sont allongés tous les trois sur l'herbe et Jean s'est endormi. François est à côté de Xavier. Il se penche vers lui et cherche à l'embrasser. Xavier se dégage légèrement. Xavier lui dit gentiment « Non, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas t'aimer, mais je veux bien rester ton ami. » François lui demande « Est-ce que tu aimes Jean ?» Xavier lui dit « Non, je n'aime personne. » François est triste, mais il continue à se voir. Une nuit, qui se promènent tous les trois dans les rues de Lyon. Ils sont dans une rue déserte et tranquille. Et tout d'un coup, une foule envahit la rue. Et une autre foule est venue la rejoindre de l'autre côté de la rue et se battent ensemble. Ce sont des gens en guenilles, la plupart des jeunes, ils sont seuls, ont des matraques, des haches, des armes à feu, des torches enflammées, etc. La rue devient un véritable champ de bataille et très vite, la bagarre se transforme en une tuerie terrible. Des gens se battent à coups de barres de fer, de chaînes de vélo, d'armes à feu, de couteaux, etc. Le sang gicle. Certains mettent le feu aux voitures et brisent les vitrines des magasins. Cela devient horrible. Ça crie, ça hurle, ça crie au secours. Des personnes qui tombent à terre, des blessés, des morts, des personnes que l'on viole, à même le sol, au milieu des débris, des explosions et de la fumée. Ils sont tous les trois au milieu de cette tuerie, cette bagarre, et ne savent comment faire pour sortir de tout ça. Ils ont très peur. Heureusement que les personnes qui se battent ne font pas attention à eux. Ils sont trop pris par le plaisir de détruire. Tout
d'un coup,
on entend les sirènes des polices, de la police. On voit, malgré le feu, et les explosions, la rue qui est fermée des deux extrémités par des cartes de CRS. Des rangées de CRS qui avancent au milieu de la foule avec leurs boucliers et leurs torches. Alors, les deux groupes qui se battaient l'un contre l'autre se battent maintenant contre les CRS. Mais les CRS accouchent de bombes lacrymogènes et de matraques, repoussent les manifestants, les émeutiers, les barbares, pour les mener vers des fourgons et les faire rentrer à l'intérieur des fourgons. Malheureusement, nos trois amis sont eux aussi poussés dans un fourgon des CRS. Ils ont très peur. À l'intérieur du fourgon, ils sont assis, coincés entre les émeutiers. Le fourgon s'est arrêté dans une grande cour. On les mène à l'intérieur d'une bâtisse pour qu'ils soient interrogés. Avant, on les mène dans une grande pièce. On les fait passer pour les mettre contre un mur pour les photographier. Ensuite, on leur fait vider leurs poches, puis chacun passe dans une pièce pour être interrogé. Nos trois amis sont très inquiets. Après un long moment, c'est au tour de François à être interrogé. Il ressort de l'interrogatoire libre. Ensuite, c'est au tour de Xavier qui demande à passer avec son ami Jean. Comme il y a beaucoup de monde, on accepte. Ils entrent tous les deux dans une pièce vide. Il y a un bureau qui est plutôt une table avec un ordinateur et se trouve un homme qui semble être grand, maigre, chauve, dans les 50 ans. Il porte un costume noir. Le commissaire leur demande qui ils sont. Xavier lui dit qui il est. « Et qui est Jean ?» Le commissaire leur dit « Je veux des preuves. » Malheureusement, Jean n'en a pas. Le commissaire pense que c'est un anarchiste, un émeutier. « Si vous n'avez pas de papier, c'est que vous êtes anarchiste et que vous avez participé à cette tuerie. » Xavier lui dit « Je vous assure, monsieur le commissaire, que mon ami est un étudiant, et qu'il veut être avocat plus tard. Il est étudiant à Paris. » Jean lui donne l'adresse où il habite à Paris et son école où il est instruit. Le commissaire essaye de téléphoner pour se renseigner à Paris, mais malheureusement il ne peut pas. Il n'y a pas de communication. Xavier dit à Jean, c'est tout à fait normal, étant donné que le temps s'est arrêté dans l'autre monde pendant que nous sommes ici. Que faire ? Jean lui dit, nous risquons d'être arrêtés et peut-être fusillés. Xavier lui dit, c'est de ma faute. Si tu risques ta vie, je n'aurais pas dû te mener ici avec moi. Je ne vois pas comment je pourrais faire pour nous sortir de ce pétrin ? Le commissaire réfléchit et décide qu'ils seront mis dans une cellule. Il fait venir deux agents et on les mène dans une cellule au sous-sol. Ils se trouvent enfermés dans une pièce qui ressemble à une petite cave. Il y a des lits en fer avec dessus des couvertures, deux chaises, une table, un WC turc et un lavabo. Ça sent mauvais et on n'y voit pas grand-chose. Même rien du tout. Xavier se dit que peut-être qu'en s'unissant dans la cellule, il pourrait passer de l'autre côté. Malheureusement, ils ne sont pas seuls. Il y a un autre prisonnier qui est un jeune dans les 30 ans, habillé en guenilles noires, cheveux longs noirs, tête osseuse. Le jeune ne leur parle pas et Xavier et Jean n'osent pas se parler car ils sont intimidés par cet inconnu. Le temps passe et chacun va se coucher. Le lendemain matin, un garde vient les chercher pour les mener à un autre bureau. Et là, Xavier voit assis au bureau de Sainte-Croix. Il lui fait « Toi ?» Xavier lui dit « Oui, c'est moi. » Il lui raconte ce qui lui arrive. Présente son ami Jean. De Sainte-Croix leur dit « Tout ça va s'arranger. » Xavier lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es de la police ?» De Sainte-Croix lui dit « Pas vraiment, mais quelquefois le destin me force, me pousse à faire des choses. Parce que c'est mon rôle, en tant que de Sainte-Croix, d'aider le pays. Mais moi je ne comprends pas vraiment. Et qui sont ceux qui me surveillent et me forcent à faire certaines choses ? Tu sais que je ne suis pas libre de mes mouvements. Qui est ton ami ? Xavier lui dit. Il vient de l'autre monde et il lui raconte son histoire. De Sainte-Croix libère les deux garçons. Xavier et Jean s'en retournent chez eux. Jean dit à Xavier, je suis tout de même content d'avoir vu de Sainte-Croix et j'aurais aimé lui parler. Il doit savoir qui tu es vraiment. Et la vie continue pour tous les deux. Ils retrouvent aussi leur ami François qui se faisait du souci pour eux. Xavier aussi aimerait pouvoir rencontrer de Sainte-Croix et lui demander ce qui signifie tout ça, ce qu'il faisait avec la police. Malheureusement, il ne le revoit pas. Le temps passe et Jean dit à Xavier, j'aimerais bien revenir dans le monde d'où je viens. Xavier lui dit, c'est normal. Et puis, tu as eu la gentillesse de rester avec moi tout ce temps. Alors, le soir, ils se couchent nus et s'unissent pour que la chose les ramène dans l'autre monde. Mais c'est la chose qui décide du moment. Et ça ne marche pas. Les premières nuits. Xavier est triste et anxieux de partir dans l'autre monde. Il aurait aimé rester où il se trouve. Il a aussi peur de se marier. Il se réveille en même temps. Ils voient tous les deux qu'ils sont dans l'autre monde, c'est-à-dire à Paris, dans la chambre de Xavier, chez l'oncle. Il fait encore nuit et sont nus. Jean n'arrive pas à comprendre comment il est arrivé là, mais il est heureux d'être de retour. Xavier est triste. Jean demande, « Nous nous levons ?» Xavier lui dit, « Si tu veux. » Ils se lèvent tous les deux et s'habillent. Ils ont retrouvé leurs vêtements où ils les avaient posés sur des chaises. Une fois habillés, et comme il fait encore tôt, ils se rallongent l'un côté de l'autre. Jean dit à Xavier, « Je te remercie de m'avoir fait vivre une aventure aussi extraordinaire que celle-là. J'ai vécu une chose inoubliable. Il n'y a peut-être que nous deux qui avons vécu ce genre de choses. » Xavier regarde sa montre et voit qu'elle indique toujours 15 heures. Lorsqu'ils entendent du bruit dans l'appartement, ils sortent de la chambre pour demander au domestique le jour qu'il est. Ils voient que le temps s'est arrêté dans leur vie. Dans cette vie-là, ils prennent leur petit déjeuner avec l'oncle qui se comporte normalement et Jean lui dit qu'il va rentrer chez lui. Xavier est triste que Jean s'en aille. Mais Jean lui dit qu'il va avoir des examens à préparer et puis je reviendrai souvent te voir. Ce que nous avons vécu ensemble ne peut s'oublier. Un après-midi, Gabrielle va voir Xavier. Il la reçoit au salon. Elle lui dit « Je m'excuse de m'être mis en colère et je suis triste que Jean soit parti, que Jean soit parti par ma faute. Ne faut pas m'en vouloir, je suis très excité par le mariage et j'ai peur qu'à la dernière minute, il ne se fasse pas. « Je t'aime, et si je te perdais, je serais terrible pour moi. » Il lui dit, « Tu n'as pas à te faire de soucis, les deux familles ont tout prévu. Elle est heureuse, lui ne l'est pas. » Et Xavier aimerait retourner dans l'autre monde, mais la chose ne se fait pas. Pourtant, une nuit, il se réveille en sueur et voit avec surprise et horreur qu'il est dans la chambre de la grand-tante. Il se dit que la chose va recommencer et il se lève. Sort de la chambre. Suit le couloir. Descend les escaliers, ouvre une porte et se trouve dans le salon. Cela ne le surprend pas, Et ne le supprime pas non plus qu'il la trouve comme d'habitude au salon assise dans son fauteuil. Elle lui dit, « Il faut que tu fasses attention. Tu dois retrouver le tableau parce qu'il appartient à De Sainte-Croix. Il demande « Pourquoi est-ce que l'on me prend pour un De Sainte-Croix ?» Elle lui répond « C'est pour que tu aies son fluide. Et puis, certainement que tu as eu des rapports avec De Sainte-Croix. » Elle lui dit « Vous m'aviez dit que le seul De Sainte-Croix était cet enfant peint sur le tableau et que cet enfant a vécu à la fin du 19e siècle. C'est impossible que je puisse l'avoir connu. » Elle lui répond, le monde est plein de mystères, mais le seul mystère que je connaisse se trouve dans le tableau. Il lui demande, pouvez-vous me dire ce mystère? Non. Je peux te dire que tu n'es pas de Sainte-Croix. Jean Charles Emmanuel de Sainte-Croix de la Maison de France. Il n'y en a eu qu'un. Malheureusement, il se fait tard et tu dois retourner te coucher. C'est ce qu'il fait, déçu, car il n'a rien compris à ce que lui a dit. C'est ce qu'il fait déçu, car il n'a rien compris à ce que lui a dit la grande tante. Il se couche et se réveille dans sa chambre à Paris, chez l'oncle. Jean vient le voir et lui dit « J'ai réussi mon premier examen et cela me permettra plus facilement de faire des recherches sur la famille de Sainte-Croix.